Chers amis, nous voulons aborder le troisième volet de notre réflexion sur la vie par l'Esprit. Et nous voulons, après avoir parlé de la croix pour fondement, puis du fer à l'être, aborder la marche en nouveauté de vie, ce que la vie par l'Esprit exige de chacun et implique pour nos communautés. Je vous invite à lire quelques versets dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, à partir du verset 1. Éphésiens, au chapitre 4, à partir du verset 1. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Nous passons au verset 11. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus comme des petits enfants, ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Chers amis, l'autre façon de parler de la sanctification, et je l'ai évoqué déjà ce matin, c'est de s'intéresser à la notion de croissance. Et cette croissance est évoquée dans notre texte. Il est question de parvenir tous ensemble à l'unité dans la foi. Il est question d'état adulte par opposition à ne plus être comme des petits enfants. La notion de croissance est une façon de parler dans le Nouveau Testament de la sanctification. Ce n'est d'ailleurs pas la seule. Le Nouveau Testament utilise d'autres idées ou expressions. Être des hommes conduits par l'Esprit et non livrés à eux-mêmes, en 1 Corinthiens 3. Faire toujours plus de progrès dans l'amour fraternel, dans 1 Thessaloniciens 4. Avoir le cœur affermi pour être saint et irréprochable dans 1 Thessaloniciens 3, mener une vie sainte dans 1 Thessaloniciens 5. Ainsi, chers amis, la vie par l'Esprit ne nous conduit pas seulement à une transformation profonde et radicale, que l'on pourrait qualifier de croissance qualitative, mais aussi à une progression régulière, que l'on pourrait qualifier de croissance quantitative. Pour le dire autrement, il ne s'agit pas seulement de changer, mais aussi de grandir. Et il faut immédiatement ajouter que cette croissance, dans le Nouveau Testament, est résolument placée dans le cadre communautaire. Comme le dit Henri Blocher, l'œuvre de l'Esprit ne concerne pas isolément les individus. Les joignant les uns aux autres, les joignant au Christ, elle les unit les uns aux autres, elle fait naître et croître l'Église. Parler donc de la vie par ou dans l'esprit, c'est nécessairement s'intéresser à un moment ou à un autre à la question de l'unité chrétienne. En ordonnant mon propos autour de ce thème de la croissance, je vous propose de suivre cette fois un itinéraire à deux étapes au lieu de trois. Ça m'arrive. La première, c'est croissance et communauté, quelle place pour l'unité? Et la seconde, croissance et maturité, quelle place pour le pardon? Croissance et communauté, quelle place pour l'unité? Quand Paul dit aux Éphésiens, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui la tête, le Christ. Il désigne moins le processus de transformation qu'opère en nous l'Esprit, en tant que tel, que ses modalités de mise en œuvre. Il parle du contexte et du moyen par lequel l'Esprit travaille. Il indique en fait aux croyants d'Éphèse comment ils pourront échapper à l'instabilité et à l'immaturité qui caractérise l'itinéraire des petits-enfants, en plaçant résolument leur croissance dans un contexte communautaire. L'ensemble du passage, vous l'avez noté, vise d'ailleurs l'unité chrétienne. John Stott, qui a écrit un commentaire très intéressant vers l'épître aux Éphésiens, la lettre aux Éphésiens vers une nouvelle société, écrit ceci. Par Jésus-Christ, mort pour les pécheurs et ressuscité d'entre les morts, Dieu crée une réalité radicalement nouvelle. Pas seulement une vie nouvelle pour des individus destinés à former une société nouvelle. Sous ses yeux émerveillés, Paul voit une humanité hostile qui se réconcilie, une humanité déchirée qui retrouve son unité, en fait une humanité nouvelle qui est en train de se créer. Or, la nouvelle humanité, la nouvelle société, pardon, qu'est l'Église, a deux caractéristiques. La première, celle dont parle le chapitre 4 des Éphésiens du verset 1 à 16, c'est l'unité. Et la deuxième, à partir du verset 17 et jusqu'au chapitre 5, verset 21, c'est la pureté. Si je comprends bien le contexte immédiat du verset 15, alors je vous rappelle ce qu'est le verset 15, qui dit « Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. » Nous pouvons, donc en regardant le contexte immédiat de ce verset, nous pouvons dire trois choses sur la croissance à laquelle nous sommes appelés. Premièrement, la communauté chrétienne est le cadre naturel de la croissance du chrétien. John Stott estime avec raison que le contexte milite davantage en faveur d'une interprétation communautaire de cette croissance. C'est-à-dire que l'état d'homme fait ou d'adulte, dont il est question dans ce texte, concerne le corps qu'est l'Église, pas seulement l'individu. Mais il ajoute, fort justement, que la croissance de l'Église dépend évidemment du progrès de chacun de ses membres. Ce qui revient à dire, mais c'est une évidence, que nul ne saurait grandir spirituellement de façon harmonieuse dans la solitude de sa chambre. La lecture de la Bible et la pratique de la prière sont des conditions nécessaires, mais pas suffisantes pour la croissance spirituelle. Il y faut aussi le creuset de la communauté utilisée par l'Esprit-Saint. Si, d'ailleurs, vous prêtez attention aux détails du verset qui nous intéresse, cette réalité de la communauté est déjà perceptible indépendamment du contexte, puisque pour grandir, nous dit l'apôtre, il faut exprimer la vérité dans l'amour. Et dites-moi si vous pouvez le faire dans le secret de votre chambre. Deuxième chose qui nous est dit sur la croissance, c'est que l'unité du corps du Christ est la raison d'être de la croissance spirituelle. Cette unité pour laquelle notre Seigneur a prié le Père, en disant « Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en ton nom, en moi, grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est moi, que c'est toi, pardon, qui m'as envoyé. » L'enjeu est trop important, mes amis. C'est pour que le monde croie. Et celui qui prie est trop grand, c'est le Fils de Dieu, pour que nous écartions d'un revers de main l'impératif de la sanctification dont parle l'Écriture. C'est l'honneur du Père. C'est la puissance du témoignage et c'est la persévérance finale qui sont en cause. Troisième chose à dire sur cette croissance, le Christ est son point de mire. Paul précise, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est dire si l'orientation de cette croissance est décisive. Notez qu'il n'est question ici ni de croissance numérique, ni de multiplication d'activités, ni même d'acquisition de compétences, mais de qualité de relation et de maturité. Je reviendrai sur la maturité. Il s'agit, nous dit Paul, de parvenir tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. En étant pasteur de deux petites églises, dans lesquelles il n'était pas toujours simple de voir les progrès, j'ai baptisé 19 personnes, mais quand j'ai fait le compte des baptisés et le solde de ceux qui étaient partis, il me restait une personne, après 7 ans. Vous voyez le genre de choses, hein ? J'aimais, vous allez comprendre pourquoi, ce que le Seigneur dit à l'église de Philadelphie. J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Au fond, mes amis, cette croissance si nécessaire à chacun pour l'unité du corps de Christ, le Saint-Esprit l'opère par la communion, par notre communion les uns avec les autres. Et comme nous ne sommes pas des saints, l'affaire n'est pas simple. Parce que c'est par l'accueil des autres que le Saint-Esprit nous forme. Mais vous savez, les autres avec leur richesse bienfaisante, mais aussi leurs manies irritantes. Leur amitié solide, mais aussi leurs inconséquences. Et que dire des embrouilles stupides et des conflits pénibles, pour ne rien dire du pardon et de la réconciliation que l'Esprit, toutes ces choses par lesquelles l'Esprit forme l'image du Christ en nous. Un auteur dont j'apprécie la lucidité et la qualité de l'écriture dit à cette expression, l'Église est une redoutable invention. Et il consacre un chapitre intitulé, donc à cette idée, « Je suis destiné à faire la fête avec mes ennemis ». Intéressant, hein ? L'Église, « Je suis destiné à faire la fête avec mes ennemis ». Voici ce qu'il dit des gens mécontents qui se plaignent de leur Église. Mais évidemment, ça n'existe pas dans les SAEF. Vous réaliserez quelque chose que vous trouverez d'abord difficile à croire. Bien que ces gens aient une liste de choses qu'ils veulent changer. La louange, l'enseignement, les dirigeants, le responsable de jeunesse ou le piano. En réalité, ces questions ne sont pas au cœur du problème. Si toutes ces choses étaient réglées immédiatement, ils trouveraient aussitôt quelque chose d'autre. Non, le véritable problème, ce sont les relations. Et c'est une tragédie. C'est une tragédie parce qu'il est bien probable que lorsque nous irons au ciel, nous découvrirons qu'il n'était pas d'une importance capitale que nous soyons dans une méga église ou dans une chapelle de 50 places. nous comprendrons que Dieu se réjouit de la louange qu'on utilise, alors il est un peu ancien, hein, un rétroprojecteur, ou qu'on ait des livres de cantiques. Et le ciel n'a jamais vraiment retenu son souffle en attendant de savoir si nous enlèverions la vieille chair et la remplacerions par une plateforme bien éclairée. Mais si nous ne luttons pas pour maintenir l'unité dans nos églises, il est impossible que nous n'éprouvions pas de la honte quand nous le rencontrerons, car c'est cela qui a de l'importance pour lui. Je ne sais pas si vous avez observé que dans les épîtres, il est assez peu question d'évangélisation. Il est beaucoup plus question de la transformation de notre sale caractère. Vous savez pourquoi ? Parce que quand nous sommes transformés, c'est la meilleure façon d'évangéliser. Alors maintenant, parlons de croissance et de maturité. Après avoir essayé d'évoquer le moyen de la croissance spirituelle, à savoir la communion fraternelle où chacun apprend au contact des autres à vivre et à dire la vérité dans l'amour, du moins nous pouvons l'espérer, Paul évoque la nature de cette croissance quand il précise « nous grandirons à tous égards ». Le contexte immédiat nous permet de préciser deux choses. Cette croissance vise un état de plénitude ou d'achèvement, indiqué au verset 13 par l'expression « parvenir à l'état d'adulte ou encore d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ ». Deuxième remarque, cette croissance concerne le corps dans son entier, c'est-à-dire chacune de ses parties. Quand Paul dit au verset 16 « c'est de lui, Christ, que le corps entier tire sa croissance ». La note de la Bible d'études du Semeur commente « Le corps grandit quand chacune de ses parties accomplit l'activité qui lui a été confiée. » Dans l'un et l'autre cas, c'est l'idée de maturité qui rend le mieux compte de la nature de la croissance en cause. Et ce que je vais vous dire ici, je le tire en partie d'un article très intéressant de Robert Somerville dans les cahiers de l'école pastorale. L'expression « homme fait », traduite par « adulte » dans la Bible du Semeur, vient d'un adjectif dans la langue originale qui contient l'idée d'accomplissement, d'objectif atteint. Et selon les cas, ces mots sont traduits par « perfection »,« parfait » ou « maturité » ou encore « adulte ». Dans le cas où on parle de maturité, il s'agit non pas d'un état statique, immuable, mais de l'aboutissement d'une croissance, d'un objectif vers lequel nous sommes en marche, ce que pointe très exactement notre texte au verset 13, qui dit qu'il s'agit donc de parvenir tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte. À cet objectif s'ajoute au verset 16 l'idée d'une harmonie. Cette croissance n'est réussie que si les différentes parties du corps y contribuent également. Sinon, s'il n'y a qu'une partie du corps qui grandit, ça s'appelle une excroissance ou une hypertrophie. Nous nous attacherons à comprendre plus précisément ce qu'est la maturité spirituelle. Alors même que c'est une notion assez fréquente en dehors du milieu chrétien. La première chose que j'aimerais dire pour définir la maturité, c'est qu'il s'agit d'être plus humain, pas d'être surhumain. Très tôt, mes amis, dans mon itinéraire spirituel, j'ai repéré chez d'autres croyants des attitudes qui suscitaient en moi un mélange d'envie et de répulsion, sans pouvoir bien analyser les raisons de mes réactions. Je pense par exemple à ce jeune père de famille, zélé, qui venait bien en avance dans les locaux de l'église que je fréquentais, se mettait à prier seul, mais non pas dans un coin, mais bien visible, juste à côté de l'entrée. et qui ne saluait jamais personne. J'admirais sa dévotion, mais je restais interloqué par son manque de savoir-vivre, pour tout vous dire. Il m'a fallu moi-même mûrir, et la formation biblique et théologique que j'ai reçue y a beaucoup contribué, pour comprendre où était le problème. Cet homme était zélé pour le Seigneur, certes, mais sa spiritualité était déséquilibrée. Il se voulait centrer sur Dieu en ayant recours à la prière de manière fervente, mais il était en fait centré sur lui, puisqu'il avait surtout besoin de montrer son zèle à tous. Du coup, trop plein de sa propre importance, il n'avait pas de place pour s'intéresser à autrui. Cela ne nous rappelle-t-il pas la parabole du pharisien et du publicain racontée par Jésus, dont il est dit qu'il l'a racontée pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres? Tout zèle emploierait-il les codes évangéliquement corrects n'est pas signe en soi, mes amis, de maturité ni de saine spiritualité. Pour ne pas errer en la matière, il est indispensable de bien comprendre le sens de l'incarnation. Jésus n'est pas venu arracher l'homme à son statut de créature pour lui faire revêtir les habits de la divinité. Au contraire, il est venu le libérer de l'esclavage du péché et lui donner les moyens par l'Esprit de remplir pleinement sa mission de créature en image de Dieu. Il n'est pas non plus venu sauver son âme indépendamment de son corps et viser la destruction de la prison que serait son corps. Non, Jésus est venu pour sauver son âme et son corps, lequel corps sera transformé en un corps glorieux lors de la résurrection. À ce titre, comme le dit l'apôtre Paul à propos de la résurrection, le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson, ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Pour le dire encore autrement, en devenant pleinement homme, Jésus nous a montré que son dessein n'était pas de faire de nous des surhommes ou des surfemmes, mais des hommes et des femmes régénérés, sanctifiés, mieux à même de répondre à leur vocation humaine. Ce qui fait souvent problème chez nous, c'est la confusion entre le péché et l'humanité. Nous avons l'impression qu'il faut, pour nous débarrasser du péché, nous débarrasser de notre humanité. Et dans cette enfilade, il y a toutes sortes de séparations qui ne sont pas justes, par lesquelles nous construisons des cloisons entre la vie spirituelle et la vie tout court, entre le dimanche et le reste de la semaine, entre le naturel et le surnaturel, entre notre responsabilité de chrétien et notre responsabilité de citoyen. Robert Somerville fait cette précision pertinente. C'est un homme bien réel, pleinement humain, dont toute la vie est en voie de reconstruction par le Saint-Esprit. Le spirituel ne désigne pas une partie, un domaine particulier de la vie humaine. C'est l'action du Saint-Esprit dans toute la vie, physique, intellectuelle, affective, sociale, professionnelle, aussi bien que religieuse. Cela signifie que ce que l'on pourra dire de la maturité en général, on pourra le dire aussi de la maturité spirituelle. Alors, quelques caractéristiques de la maturité, 5 caractéristiques. La maturité chrétienne est d'abord une maturité qui se caractérise par le sens des responsabilités, la capacité à assumer ses actes et à prendre des responsabilités. C'est le contraire de l'irresponsabilité qui est la marque des petits-enfants en général et des croyants que Paul désigne ainsi, des petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues, emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Le propre de la responsabilité, c'est la capacité à répondre de ses actes, à rendre des comptes quand on nous le demande. Cette notion est au cœur du message biblique. dès la création, Dieu s'adresse à l'homme, lui confie le jardin et lui demande des comptes. Or, à cause du péché, l'homme, voulant devenir son propre maître, a cherché à fuir ses responsabilités en se cachant. Mais Dieu a continué à le traiter en responsable. Et toute la révélation peut être lue comme une alliance que Dieu fait avec l'homme en l'appelant, en lui confiant des responsabilités, en lui demandant des comptes, en le sanctionnant pour ses manquements et en le relevant. L'œuvre de l'Esprit consiste, mes amis, à nous élever en responsabilité. C'est pourquoi je suis d'accord avec Robert Sommerville quand il dit que l'enseignement donné aux chrétiens doit chercher à les responsabiliser, en leur rappelant que toute leur vie est vocation, réponse à un appel, en les invitant à s'engager dans l'œuvre commune, à participer, à servir et non à se faire servir, à se prendre en charge pour pouvoir prendre l'autre en charge et non à se laisser porter. Deuxième caractéristique de la maturité, c'est la cohérence du comportement et de la pensée. Un adulte, contrairement à un enfant, est généralement capable de fidélité, de persévérance et de continuité. Il fait ou devrait faire ce qu'il dit et garder une certaine constance dans ses propos et ses engagements. C'est au fond un reflet de ce qu'est Dieu, qui reste fidèle à sa promesse et ne se renie pas, comme le dit Paul à Timothée, vous vous souvenez. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. La maturité implique la capacité à faire un projet durable, à le mener à bien, au lieu de subir les circonstances extérieures ou ses propres états d'âme. Malheureusement, nous ne sommes guère encouragés dans notre société à mûrir. Dans la mesure où notre monde privilégie le sentiment sur l'engagement, il n'y a qu'à voir ce qui se passe du côté des mariages, et où nous privilégions l'instant sur la durée. Or, toute croissance prend du temps et demande une certaine discipline de vie pour être satisfaisante et harmonieuse. La maîtrise de soi, qui est un fruit de l'esprit, est indispensable à la vie en communauté, à la mise en œuvre de projets durables. Elle implique une discipline de vie comparable à celle de l'ouvrier, du soldat ou de l'athlète, comme le rappelle l'apôtre Paul dans ses épîtres. Nous ne pouvons croître et combattre fidèlement sans laisser de côté nos passions et faire place, mes amis, à une vie de disciple qui consiste à suivre en tout notre maître. C'est aussi cela, la vie par l'esprit. Troisième caractéristique de la maturité, c'est une stabilité dynamique. La stabilité qui caractérise la maturité n'est pas synonyme d'immobilisme. La maturité est en fait un état en devenir, dans lequel la croissance se poursuit et des changements continuent à intervenir. Vous savez, un croyant qui se croit mûr et qui s'assied, une église qui se satisfait de son histoire glorieuse et se contente de reproduire ce qui a toujours été fait, vont à l'atrophie spirituelle, aussi sûrement qu'une personne toujours allongée multiplie les problèmes de décubitus. Qu'est-ce que c'est ? Les escarres, par exemple. À mon sens, l'équilibre de la vie chrétienne ressemble plus à celui du cycliste qu'à celui de ces statues humaines qu'on voit dans les rues de Paris. C'est-à-dire que le cycliste, il ne reste en équilibre qu'en avançant. La maturité chrétienne est en fait une marche dans la sanctification. Ce que je suis aujourd'hui, je ne le serai pas demain par la grâce de Dieu et par l'œuvre du Saint-Esprit. Quatrième caractéristique de la maturité, une pensée juste. « La quatrième caractéristique de la maturité, c'est le fait d'avoir et de cultiver une pensée droite, équilibrée, lucide. La Bible appelle une telle pensée la sagesse. Et le livre des Proverbes rend hommage à cette sagesse autant qu'il la décrit. Une sagesse si utile pour mener une vie qui plaît à Dieu et qui évite les pièges du péché de l'homme livré à lui-même. Dans la même veine, le Nouveau Testament considère la sagesse, le discernement, le jugement comme des signes de maturité. Par exemple, en Hébreux 5, 14, « Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. » Alors, franchement, les fameux discours qui consistent à nous dire « Il ne faut pas juger, s'il vous plaît, arrangez au placard. » Le chrétien mûr sait faire face à la réalité plutôt que de se boucher les yeux. Et il se sait appelé à ne pas se conformer au monde présent, mais à être renouvelé dans son intelligence. Au fond, le chrétien est un non-conformiste. Enfin, devrait l'être. Mais vous savez, ce n'est pas si simple d'être un non-conformiste. Là encore, l'œuvre de l'esprit avec et par la parole est de mettre en nos cœurs cette pensée juste qui vient de Dieu. Cinquième caractéristique et dernière caractéristique, l'esprit de service. Et il me semble que cette caractéristique de la maturité englobe toutes les autres. C'est la capacité à aimer autrui qui conduit à un véritable esprit de service. En la matière, la maturité se signale par la capacité à accepter les autres, à les aimer, non d'une manière possessive, mais en se souciant de leur intérêt et de leur bien. À vivre avec les autres, à les supporter, à collaborer avec eux, quand bien même nous ne sommes pas d'accord dans tous les domaines. C'est une preuve de maturité que d'être capable d'avancer sans avoir résolu tous les problèmes. C'est encore servir les autres en utilisant les dons que nous avons reçus. C'est enfin, et c'est là-dessus que je voudrais prendre un peu de temps pour terminer, exercer le pardon et travailler à la réconciliation quand il y a eu blessure ou division. Et j'aimerais vous parler de la place qu'il faudrait faire, me semble-t-il, au pardon dans notre vie et dans nos communautés. Et je voudrais pour cela vous raconter une histoire. Xavier, alors les prénoms sont fictifs et les personnages aussi. Xavier quitte discrètement la salle de culte en ce beau dimanche de juin. Il redoute de croiser Henri et de devoir le saluer. Il n'a pas envie de faire comme si de rien n'était, ni de laisser sa colère s'exprimer. Tous deux viennent pourtant de partager le même pain et de boire symboliquement, car la communauté a de petits verres, à la même coupe. Xavier mesure bien l'incohérence de la situation et il a le cœur lourd. Sans cesse lui reviennent ces paroles du Seigneur. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? » Henri est un frère pourtant, pas un païen, mais il n'arrive même plus à le saluer. Il faut dire que selon Xavier, Henri l'a traité de façon injuste et méprisante. Ce dernier a fait appel à ses services d'artisan paysagiste pour s'occuper de ses espaces verts. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que Xavier lui présente la facture. Là, Henri a commencé à contester le montant, puis à mettre en cause la qualité du service rendu. Soucieux pour des questions de trésorerie d'obtenir un règlement rapide, Xavier a fait un geste commercial en baissant la note de 10%. Mais Henri a jugé l'effort insuffisant et, faute d'être entendu par Xavier, a traîné plus de 6 mois avant de le payer. Modeste artisan à son propre compte, Xavier a ainsi vu plus de 3000 euros tarder à renflouer une trésorerie exsangue. Faute d'oser s'en ouvrir à son pasteur et plus encore de faire appel à un service de recouvrement, puisqu'il s'agissait d'un frère, Xavier a conçu un solide ressentiment teinté de jalousie. Voir un riche entrepreneur mégoter sur une facture et mettre indirectement en péril ses affaires était plus qu'il n'en pouvait supporter. Désormais, la dette économique est apurée puisque Henri a payé la facture. Mais il y en a une autre qui demeure, une dette morale. Xavier reste blessé par cette affaire. Et il ne sait pas comment trouver la guérison. La vraie question, mes amis, que pose cette histoire fictive est celle de l'exercice du pardon et de la réalité de la réconciliation dans nos communautés évangéliques. Faute de liturgie un tant soit peu structurée, le rappel de la loi, la confession des péchés et l'annonce du pardon sont rarement évoqués lors des cultes dominicaux. Un indice de ce manque, c'est la pauvreté de notre hymnologie contemporaine en matière de repentance et de pardon. Se pourrait-il alors que la scène, fréquemment précédée par une invitation à l'examen de conscience au moyen de la lecture d'un Corinthiens 11, soit propice à un tel exercice ? Las, le caractère généralement expéditif de ce moment ne laisse guère le temps de rentrer en soi-même, et encore moins d'aller voir le frère ou la sœur qui a quelque chose contre soi. Pourtant, le Seigneur nous le recommande. Ce ne sont pas les 30 ou 60 secondes de silence, parfois aménagées avant le partage du pain et du vin, qui permettraient à un Xavier d'entreprendre une démarche de réconciliation. Que reste-t-il alors dans nos communautés pour que nous obéissions à l'ordre du Seigneur de nous laver les pieds les uns aux autres? Ben, à vrai dire, peu de choses. Et nous arrivons à ce curieux paradoxe que nos églises évangéliques qui prêchent l'importance de la conversion et donc de la repentance et du pardon pour entrer dans la foi font pratiquement l'impasse sur ces mêmes réalités dans leur enseignement et leur pratique pour le cheminement quotidien de leurs membres. Mes nombreuses visites d'églises de la Fédération Baptiste pendant que j'en étais son secrétaire général, puis d'autres églises évangéliques depuis que je suis professeur à l'Institut biblique de Nogent et président du CNEF, me laissent penser, mes chers amis, que nous payons un lourd tribut à l'adversaire en raison de cette inconséquence. Que de blessures se sont infectées, de conflits ont dégénéré, de divisions ont prospéré, parce que nous n'avons jamais fait face au mal au point de le nommer pour mieux le traiter. Combien de frères et de sœurs ont chuté parce que nous n'avons pas su reconnaître l'injustice qu'ils subissaient de la part de toute ou partie de la communauté, et donc nous n'avons pas su le dénoncer. Et que dire, mes amis, et ce n'est pas une simple vue de l'esprit, de ces églises qui meurent, qui se meurent des haines recuites et des refus de pardon qu'elles ont laissé subsister en leur sein. Mes chers amis, partout où le mal n'est pas reconnu comme mal, le pardon ne peut pas s'exercer, ni la réconciliation intervenir. En effet, le pardon chrétien n'est pas la négation, pas même la minimisation de l'offense subie, mais la prise en compte de sa gravité. C'est une dette, et de son effet, c'est une blessure. Pour mieux en acquitter l'auteur en vertu du pardon que nous avons même nous-mêmes reçu en Christ. Autrement dit, mes chers amis, L'exercice du pardon est au cœur d'une spiritualité saine et authentique. C'est une marque de la vie par l'esprit, de la marche dans la sanctification. Fils et filles de la compassion divine rachetée par le sang précieux du Christ notre Sauveur, nous vivons littéralement du pardon de Dieu. Refuser notre pardon et notre compassion à autrui, c'est nous priver de notre oxygène spirituel. C'est nous détruire nous-mêmes. Et en tant que pasteur, je considère que ce refus du pardon est comme un interdit dans la vie des personnes et des communautés. On raconte cet épisode de l'histoire de France. En 1498, lorsque Louis XII, duc d'Orléans, est devenu roi de France, ceux qui l'avaient combattu auparavant furent pris d'une grande frayeur. Qu'allait-il donc leur arriver? D'autant qu'on disait que le roi avait mis une croix à l'encre rouge en face de chacun de leurs noms. N'y tenant plus, l'un d'eux, Duplessis Mornay, demanda une audience à Louis XII et s'informa du sort qu'il allait réserver à lui et ses amis. Le roi s'étonna que lui fût posée semblable question. Qui donc avait pu faire penser à ses sujets qu'un traitement particulier serait réservé à certains d'entre eux? « Enfin, sire !» s'est exclamé Duplessis Mornay. « N'est-il pas vrai que vous avez marqué nos noms d'une croix rouge ?» « C'est l'exacte vérité, » répondit Louis XII. « Mais alors, pourquoi cette marque, je vous prie ?»« Uniquement, dit le roi, pour me remémorer cette parole de Jésus. Je t'ai remis toute ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Et vous l'avez compris, la croix n'était pas comme ceci, mais comme ceci. » Je me demande si une des choses que nous devrions faire, ce n'est pas d'ouvrir nos carnets d'adresse, de prendre un crayon rouge. Enfin, les carnets peut-être un peu anciens, parce qu'il y a peut-être des noms qui ont disparu. Hein. Pour prier d'abord, puis aller voir ensuite le frère ou la sœur qui nous a fait du tort, ou à qui nous avons fait du tort. Vous savez, la démarche du pardon est coûteuse, mais elle est pleine d'une promesse de joie et de bénédiction. Et elle est gage de croissance dans la foi, de progrès dans la sanctification pour vous, pour toute votre communauté, et si c'était nécessaire, pour toute votre union. Et comme c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que nous sommes les disciples du Seigneur, elle est aussi gage d'un puissant témoignage. Que le Seigneur vous donne, mes chers amis, nous donne, d'ici le congrès 2016, de savoir dire la vérité dans l'amour, afin de grandir à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. Et qu'ainsi, la vie par l'esprit ne soit pas un vain mot dans notre vie et dans la vie de nos églises. Amen.